VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Midi à Washington, 18h à Bujumbura. Bonsoir, bienvenue au Burundi. Alors que les manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se poursuivent, l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent à un report des élections. C'est dans ce contexte que la Belgique, premier partenaire du processus électoral, prend ses distances avec Bujumbura. Le point, Morgane Guériec.
Nous avons encouragé le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement. L'idée d'un glissement du calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a estimé l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région, s'exprimant aussi au nom de la Suisse et des États-Unis. Les Pays-Bas et la Suisse ont annoncé la suspension de leur aide électorale au Burundi, emboîtant le pas à la Belgique. En réaction à la répression policière à l'encontre des protestations, l'ex-puissance coloniale a suspendu le versement de 2 millions d'euros destinés à soutenir les élections. Elle interrompt également sa coopération policière avec Bujumbura. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burundi a jugé que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant, explique le vice-premier ministre belge Alexander De Croo. Le coût du processus électoral est estimé par Bujumbura à quelque 60 millions de dollars. Le Burundi dit pouvoir en assurer 21 millions. Les violences liées aux manifestations ont déjà fait près de 20 morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Kenya, Ouganda, se réunissent mercredi à Dar es Salaam pour discuter du dossier.
Le gouvernement centrafricain et 10 groupes armés ont signé un accord de paix dimanche visant à mettre fin à 2 années de violences armées ayant fait des milliers de morts. Les médiateurs onusiens ont précisé que toutes les parties ont convenu de désarmer formellement, de renoncer à utiliser des armes pour leurs revendications et de s'engager dans un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration. L'accord comprend également une clause interdisant l'utilisation des enfants comme soldats ou travailleurs forcés. La violence armée n'a pas complètement disparu aujourd'hui en Centrafrique, mais l'ordre a plus ou moins été rétabli depuis que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est soutenue par une force de maintien de la paix des Nations Unies. Afrique de l'Ouest, Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara a déclaré ce lundi à Ouagadougou qu'il est candidat à la présidentielle dans son pays. L'ancien chef de la junte militaire en Guinée a créé son propre parti politique dénommé Force Patriotique pour la Démocratie et le Développement. Et toujours en Guinée, l'opposition a suspendu sa marche de protestation initialement prevue ce lundi après plus de 2 semaines de manifestations à Conakry et dans d'autres villes qui ont fait au moins 3 morts. Le chef de file de l'opposition, Seloud Alaine Diallo, veut donner une chance à sa rencontre de demain mardi avec le président Alpha Condé afin de discuter de la crise politique dans le pays. Les perspectives avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Une crise politique qui commence à donner des sentiments de déception en Guinée.
Je pense que les Guinéens ne méritent pas vraiment ce qui est en train de se passer dans ce pays. Ça fait 5 ans, les choses avancent mollo. Et je pense que les acteurs politiques doivent se retrouver autour de la table.
Les manifestations de l'opposition sont bel et bien légales, dans la mesure où ils manifestent pour un droit.
Moi, je pense qu'on ne devrait pas en arriver là. Il faut que les gens mettent la balle à terre, qu'ils essayent de s'asseoir autour de tables de dialogue.
Pour Ibrahim Souli Traoré, éditorialiste, c'est une occasion pour les deux hommes de trouver une issue à la crise.
Je crois que tout le monde attend beaucoup de cette rencontre. Il faut qu'ils se comprennent. Il faut que le président donne une volonté de dialoguer. Qu'il rassure son opposant. Et aussi, il faut que la GCLO comprenne que ça ne peut pas se régler dans la rue.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, a pour la première fois porté un noir à sa tête lors d'un congrès tenu à Port Elizabeth. Moussi Maïman, âgé de 34 ans et originaire de Soweto, a été choisi pour remplacer Hélène Dilley qui, à 64 ans, avait annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Pour un éclairage sur le nouveau leader de l'Alliance démocratique, Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg David Zoumenou. Il est chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud.
Moussi Maïman est un jeune politicien qui a su gravir très rapidement les marches pour se retrouver dans la position de leadership au sein de l'Alliance démocratique. Il était jusque-là le porte-parole de l'Alliance démocratique à l'Assemblée, pressenti pour jouer un plus grand rôle. Le parti lui a accordé sa confiance. Donc c'est un jeune tribun, c'est également une gueule dans l'arène politique sud-africaine et surtout c'est une jeunesse qui continue d'incarner les valeurs d'unité, les valeurs auxquelles en tout cas le parti s'est engagé depuis la fin de l'apartheid et qui veut tout faire pour briser le monopole de l'ANC sur l'arène politique sud-africaine.
David Zoumenou de l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud, joignant à Johannesburg. Le roi Salman d'Arabie Saoudite ne sera pas au sommet américano-arabe convoqué cette semaine à Washington par le président Barack Obama, a annoncé hier son ministre des Affaires étrangères Adel Al-Jouber, annulant également une réunion à la Maison-Blanche qui avait été annoncée il y a seulement quelques jours. Lionel Gaïma.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et c'est parti donc pour le roi Salman d'Arabie Saoudite qui ne sera pas aux États-Unis avec Lionel Gaïma.
C'est mercredi que doit s'ouvrir le sommet en présence des délégations des 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe en visite à la Maison-Blanche, avant de se poursuivre jeudi avec de pourparlers à Camp David avec le président Obama. Selon M. Jubeir, le roi Salman envoie à sa place le prince héritier Mohamed bin Nayef. Il explique que le sommet coïncide avec le cessez-le-feu de 5 jours et les efforts humanitaires au Yémen voisin, où l'Arabie saoudite a mené une campagne de frappe aérienne contre les rebelles chiites Houthis. Un officiel de l'administration Obama a dit que ce changement n'était pas, et je cite, en réponse à une quelconque question substantielle. Avec l'absence du roi Salman, seul l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et celui du Koweït Sabah Ahmad Al Sabah dirigeront les délégations de leur pays. Le sultan d'Oman Qaboos bin Saïd et le président Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis disent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de Washington pour des raisons de santé. En revanche, aucune explication sur le fait que la délégation de Bahreïn sera dirigée par le prince héritier plutôt que par le roi Hamad bin Issa al-Khalifa. La semaine dernière, un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schulz, avait dit qu'il y aurait à ce sommet des discussions sur le renforcement de la coopération sécuritaire avec les nations du Golfe et la recherche d'approches communes concernant les conflits en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen. Les pourparlers porteront vraisemblablement aussi sur les négociations au sujet du nucléaire iranien et les préoccupations des États du Golfe selon lesquelles Téhéran obtiendrait la levée des sanctions tout en préservant sa capacité à fabriquer une bombe atomique.
Et sur le terrain au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a continué ses frappes aériennes contre les cibles des rebelles houthis ce lundi. Un jour avant donc l'entrée en vigueur du cessez-le-feu humanitaire, les avions ont bombardé la région de Saada, près de la frontière saoudienne, ainsi que Taiz, dans le sud-ouest du Yémen et à l'est de la province de Marib, productrice de pétrole. John Kerry va rencontrer Vladimir Poutine demain, mardi, en Russie. La rencontre entre le secrétaire d'État américain et le président russe va se dérouler à Sochi, au menu des discussions des sujets bilatéraux et régionaux dont l'Iran, la Syrie et l'Ukraine, a indiqué le département d'État ce lundi. Il va s'agir de la première visite de M. Kerry depuis 2 ans, alors que les relations entre les deux pays sont au plus mal depuis la fin de la guerre froide. Et puis le président français François Hollande est à Cuba depuis hier soir en visite officielle. Il est le premier chef d'État occidental à visiter l'île communiste depuis l'annonce par le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro en décembre dernier de leur intention de mettre fin à plus de 5 décennies de rupture des relations bilatérales pour cause de guerre froide. Au programme donc du président Hollande aujourd'hui, lundi, des consultations avec Raúl Castro qui rentre d'Italie où il a été reçu au Vatican hier par le pape François. C'est tout pour ce journal. Ce qu'il faut retenir, c'est Dadis Camara qui est candidat donc à la présidentielle dans son pays. Il a créé son propre parti et c'est là au Burkina où il réside. Et puis, sachez que John Kerry va rencontrer Vladimir Poutine demain mardi en Russie. La rencontre entre le secrétaire d'État américain et le président russe va se dérouler à Sochi au menu des discussions. discussion des sujets bilatéraux et régionaux dont l'Iran, la Syrie et l'Ukraine. Au Yémen, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a continué ses frappes aujourd'hui contre les cibles des rebelles houthis ce lundi, un jour seulement avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu humanitaire. Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau bulletin sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur